Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense, donc je suis. Et peut-être la formule la plus célèbre de l'histoire de la philosophie française. Mais que signifie-t-elle vraiment? La pensée suffit-elle à démontrer l'existence? Est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui ne dément pas cette affirmation de René Descartes au milieu du XVIIe siècle? Je pense, donc je suis. Et si rien n'était moins sûr? Alors, on donnerait encore raison à Descartes, car douter, n'est-ce pas aussi prouver qu'on existe? Bonjour Jean-Luc Marion.
Bonjour.
Vous connaissez Descartes mieux que personne, vous l'avez enseigné toute votre vie, mais saviez-vous qu'il avait aussi écrit des chansons? Il nous en reste une, écrite pour et interprétée par Brigitte Bardot.
Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. Ne prends pas cet air triste et ne prends pas la peine de prendre tout ton temps à me dire que tu m'aimes. Je ne me fixe pas, je ne prends pas racine. Je ne suis pas de celle qu'un regard assassine. Je danse, donc je suis.
Quand Brigitte Bardot chante « Je danse, donc je suis », en quoi est-ce moins convaincant que l'affirmation de Descartes qui dit que « Je pense, donc je suis » ? Quelle différence ?
Ah bah Descartes, il était parfaitement d'accord. C'est l'objection de Gassendi qui lui dit « Mais pourquoi ne le dites-vous pas ? Je me promène, donc je suis ». Je respire, donc je suis, etc. Et Descartes lui répond, mais quand vous dites « je me promène », vous n'êtes pas certain de vous promener, peut-être que vous rêvez que vous vous promenez. Donc pour vraiment dire « je me promène » en étant certain, vous devez dire « je pense que je me promène ». Donc Brigitte Bardot est gassendiste.
Même combat.
Sans le savoir, elle dit « je pense que je danse ». D'ailleurs, son partenaire voudrait lui dire « je t'aime » et qu'elle ne danse pas seulement avec lui, mais elle lui répond très justement « ne te fais pas d'illusions, moi je ne pense qu'à une chose, à danser, pas à autre chose. Tu es prié de faire la même chose. » Donc ça, c'est la réponse de Descartes. En fait, « je danse » signifie « je pense que je danse ». Donc, je peux dire parfaitement « je pense que je danse, donc je suis ». Donc, Brigitte Bardot est ici strictement cartésienne et elle réfute Gassendi.
Je ne vous pensais pas aussi éloquent sur le sujet, Jean-Luc Marion. Quelle bonne surprise. Vous enseignez la philosophie à l'Université de Chicago. Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie française et, on l'aura compris, spécialiste de la philosophie de Descartes, auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. J'ai la liste sous les yeux. Il y en a beaucoup. Il vous reste encore des choses à dire sur Descartes.
Encore un.
Bon, encore un. Ah bah, encore. On espère. Le discours de la méthode nous accompagne cette semaine. Nous allons examiner ensemble la quatrième partie. On a vu depuis lundi comment Descartes essayait de mettre au point une méthode pour bien conduire sa raison. Comment cette méthode pouvait s'appliquer à la morale, c'est-à-dire dans des domaines où la certitude n'est pas vraiment de mise. Dans la quatrième partie, il affirme d'emblée qu'il veut nous entretenir sur ses premières méditations qui sont, dit-il, si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. En quoi ces méditations sont-elles métaphysiques ?
Alors, c'est un mot étrange, métaphysique, chez Descartes, parce qu'il n'est pas, jusqu'à cette période, donc en 1637, il n'a pas employé souvent le mot métaphysique. En fait, il ne l'a employé véritablement qu'une seule fois. 7 ans auparavant, dans la lettre à son ami Mersenne, du 15 avril 1630, où Mersenne lui pose une question, qui d'ailleurs, on verra, du rapport avec le discours de la méthode, une question que Descartes considère comme métaphysique, qui est de savoir si Dieu, lorsqu'il pense et lorsqu'il crée le monde, obéit aux règles, théorèmes et lois de la métaphysique, et si Dieu est, comme dira plus tard Leibniz, comme le disaient à l'époque d'ailleurs Kepler et Galilée, si Dieu est mathématicien quand il crée le monde. Et alors Descartes avait répondu à ce moment-là d'une thèse tout à fait originale, à savoir que Dieu est totalement indifférent aux contraintes de la rationalité mathématique et que Dieu a créé même les vérités éternelles, c'est-à-dire celles de la logique et celle des mathématiques. Alors, il pouvait en parler, puisque lui, lui-même était mathématicien, puisque l'un des essais de la méthode, qui paraissent avec le discours de la méthode comme préface en 1637, c'est justement la géométrie. Mmh. Donc Descartes était sans aucun doute l'un des meilleurs géomètres, des meilleurs mathématiciens de sa génération, et il pouvait parler des mathématiques en sachant de quoi il parlait, au contraire de Malebranche, qui n'était pas un grand mathématicien après lui, ou Spinoza, qui était nul en mathématiques. Lui, Descartes savait de quoi il parlait. Et il pense, lui, contre les autres mathématiciens de son époque, c'est ça qui est intéressant, que l'entendement divin n'est pas conforme à ce qu'il y a de plus haut et de plus théorique, et a priori, pour nous, pour notre entendement, à savoir les vérités mathématiques. Donc, si 2 et 2 égale 4, c'est parce que Dieu l'a décidé, il aurait très bien pu décider 2 et 2 égale 5, et on n'aurait vu que du feu.
Il y a un arbitraire divin dans la décision de faire passer au statut
d'existence. Oui, c'est même pas un arbitraire, c'est une instauration. L'arbitraire suppose qu'il y a des règles qu'on brise. Donc Dieu a instauré un code. Je pense que l'idée Descartes, c'est un peu de dire il y a des règles du jeu d'échecs, il y a des règles du jeu de dames, c'est pas le même. Quand on joue, on accepte les règles, on ne pose pas de questions. Et ben il y a des règles de l'entendement fini. Ces règles sont la logique formelle, les mathématiques. Donc nous ne pouvons penser que là-dedans, c'est très bien, c'est comme ça. Mais
l'entendement fini, c'est le nôtre.
C'est le nôtre. Mais il ne faut pas imaginer que ce sont des vérités absolues. Alors ça, c'est très intéressant parce que à la même époque, Kepler, positivement, Galilée, de manière plus polémique, avait posé cette règle absolue que si nous connaissons les modèles mathématiques auxquels, par exemple, les mouvements des astres obéissent, etc., ou la chute des corps obéit, ben, nous savons le maximum que nous pouvons savoir. Et donc, si Dieu a créé le monde, il a créé le monde comme ça. Alors, Descartes pense que non. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a dit métaphysique pour la première fois.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire métaphysique ici? Ça veut dire parler de métaphysique, c'est parler de Dieu, forcément?
Non. On ne sait pas exactement. Métaphysique, ça veut dire pour Descartes ce qui est au-delà. C'est le mot « méta » dans métaphysique. Donc pour Aristote, métaphysique, ça signifie ce qui est au-delà de la physique. Enfin, du moins, c'est l'interprétation conceptuelle, parce que, bon, je passe les détails. Donc pour Descartes, ce qui est au-delà de la métaphysique, c'est au-delà de la physique, et donc de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique mathématique, c'est-à-dire ce que nous pouvons concevoir mais pas comprendre. Donc il le dit à ce moment-là de manière... tout à fait. C'est la première fois. Et auparavant, dans les règles pour la direction de l'esprit, il n'avait jamais employé ce mot métaphysique. Et après coup, jusqu'au discours de la méthode, il ne l'emploie pas non plus. Donc, nous voulons dire que c'est une espèce de transgression de l'image habituelle de la rationalité. Alors, quand il dit dans la quatrième partie, c'est intéressant parce que quand il veut développer ses essais scientifiques, le mot clé, c'est méthode.
Oui, je rappelle que le discours de la méthode est une préface à des essais scientifiques.
Absolument, qui comprennent l'optique géométrique, les météores, la théorie des tourbillons, donc les mouvements des astres, enfin, etc., et puis la géométrie. Et donc, pour faire ça, il a besoin de ce qu'il appelle la méthode. Et la méthode, c'est pas de la métaphysique, c'est même en un sens l'inverse. C'est ce que notre entendement, les règles que notre entendement doit suivre pour pas se tromper. Bon. Et il veut montrer qu'il a parfaitement réalisé son programme, ce qui est le cas. Alors, curieusement, dans le discours de la méthode, il explique l'histoire de son esprit, comment il en est arrivé là, etc. Bon, donc il y a les trois premières parties, puis après on va avoir la partie 5 et 6 où il va expliquer son hypothèse. Je ne prétends pas dire la vérité du monde, mais je vais produire un espèce de récit. Nous avons maintenant des modèles. Des modèles vraisemblables qui permettent de commencer à entendre les phénomènes de la vie, du monde, de l'expérience.
Ce sera le sujet de l'émission de demain.
Absolument. Alors entre les deux, curieusement, il met un développement dont il dit d'emblée qu'il est plus métaphysique. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Il y a quelque chose, alors non pas de négatif, mais de distancé avec l'emploi de ce terme ici. Hein. Oui. Vous entretenir de mes premières méditations, elles sont si métaphysiques et si peu communes. Mmh. Métaphysique semble ici synonyme de... je sais pas, quelque chose d'un peu fantasque, un peu abstrait, difficile.
Abstrait, ouais. Le mot. Gilson voulait expliquer ça, parce que la thèse de
Étienne Gilson, cartésien, qui établit l'édition du discours de la méthode.
Grand médiéviste, qui à l'époque, qui a toujours été thomiste, et donc il était contre Descartes, parce que les thomistes étaient contre Descartes.
Thomiste et Saint Thomas d'Aquin.
Saint Thomas d'Aquin. Donc à l'époque, Descartes était accusé d'être subjectif, et puis Saint Thomas était objectif, c'était mieux, etc. Bon. Et alors, en principe, pour Gilson, Descartes ne faisait pas de métaphysique. S'il avait fait de la métaphysique, il aurait été dans la ligne de Saint Thomas. C'était aussi l'opinion de beaucoup de gens, dont Maritain, etc. Et alors, Gilson était un peu embêté de voir que Descartes disait métaphysique, il n'aurait pas dû dire métaphysique. Donc il avait l'explication, qui d'ailleurs est tout à fait sensée. Il disait, métaphysique, ça a le sens que métaphysique avait aussi dans la première édition du discours de l'Académie, à savoir des considérations abstraites. Alors, et de fait, on ne sait pas exactement, parce que Descartes n'a pas une métaphysique au sens où, après lui, le terme de métaphysique deviendra structurel, tel qu'il est chez Kant, chez Leibniz, etc., où ça veut dire une science philosophique construite. On a pu même discuter, c'est un problème chez Descartes, de savoir si Descartes est vraiment une partie de l'histoire de la métaphysique au sens où Heidegger a construit l'histoire de la métaphysique. J'ai essayé de démontrer que Descartes en fait partie, sans en faire partie. Et ici, il emploie métaphysique de manière, comme vous avez raison de le dire, un peu floue. Alors, ce qu'il entend par métaphysique, c'est plus méta que physique. Mmh. C'est-à-dire, méta, ça veut dire après, au-delà. Et donc, il entend une transgression du discours de la méthode. Curieusement, métaphysique, ici, ça veut dire qu'on va aller au-delà du discours de la méthode.
D'où la réticence à en parler. Hein.
Oui, absolument. Il dit, voilà, Je vais me risquer.
Ouais.
C'est-à-dire, dans son idée, la méthode n'est pas le dernier mot. Ça marche, ça n'a pas de présupposé, c'est une pure théorie de la science, une Erkenntnistheorie, comme disent les Allemands. Alors, le sujet connaît de manière certaine, mais on ne sait pas qui est le sujet, on ne sait pas quel est le fondement. Alors Descartes, quand même, c'est un gars sérieux, il veut savoir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qu'il y a au-delà. Et là, c'est ce qu'il va faire. Alors, ce qu'il dit de la façon dont il entend métaphysique, c'est deux choses qu'on retrouvera plus tard, en 1641, c'est-à-dire 5 ans plus tard, dans les méditations de philosophie première, qui ont été traduites sous le titre de méditation métaphysique. C'est pas le mot de Descartes, c'est philosophie première. Là aussi, il y a une ambiguïté. Alors, ce qu'il veut dire à ce moment-là, c'est que, au-delà de la méthode, il y a deux choses. À supposer que ce soit des choses, d'ailleurs. Il y a je.
Oui, c'est toute la question, oui, on va y venir.
Il y a je et il y a Dieu. Alors, le vrai problème, ce qui fait que l'histoire de la méthode est un texte apparemment facile qu'on fait lire aux élèves, tout ça, là, c'est scolaire, c'est très bien, c'est le début de la raison, et autres fariboles. En fait, la vérité, c'est un texte très difficile, parce que c'est un texte de transition. C'est un texte qui est entre deux chaises. Parce que le vrai moment où Descartes entre dans la métaphysique, c'est les méditations. Et le discours de la méthode, c'est une anticipation sur, justement, la méthode et les sciences, qui ont commencé avec les règles pour la direction de l'esprit, durant l'hiver 1627, qui sont le noyau de sa doctrine de la méthode et des sciences, et les méditations, où là, vraiment, il va, si je puis me permettre l'expression, se lâcher à fond. Mm-hmm. Dans le discours de la méthode, il ne parle pas de métaphysique, sauf dans cette curieuse annexe de la quatrième partie, où il est, justement, entre deux eaux, entre deux chaises. C'est ça qui est amusant pour lire ce texte, c'est ce qui fait qu'il est le plus difficile.
Et c'est ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre le texte que voici. Absolument.
Parce que je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer. Et puisqu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'aucun autre, je rejetais comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration. Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons sans qu'il n'y en ait aucune qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient pas plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité « je pense, donc je suis » était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, je connus de là que j'étais une substance, dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu ni ne dépend d'aucune chose matérielle, en sorte que ce « moi », c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est.
Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. Vous êtes bien parce que vous êtes en compagnie de Descartes, Thibaut de Montalembert qui lit Descartes à la perfection, Jean-Luc Marion qui en parle divinement bien. Et ce texte si difficile à comprendre, vous l'avez enseigné, j'imagine, toute votre vie, Jean-Luc Marion, ce texte du « Je pense donc je suis ». Et j'ai l'impression que plus on le lit, plus on l'écoute, moins on le comprend. Est-ce que vous avez la même sensation ?
Peut-être pas pour les mêmes raisons que le lecteur... qui nous écoute, mais oui, de fait, c'est un texte énigmatique. Il est énigmatique pour de nombreuses raisons. Bon, Descartes est en train de dire, il faut comprendre, il vient de dire, je vais tenir un discours scientifique qui est absolument démonstratif, foin de la physique aristotélicienne, enfin, je dis des choses certaines. So far, so good. À ce moment-là, il dit « je vais me mettre à douter de tout
oui. ».
Alors qu'il va dire que ses essais sont absolument certains.
C'est alors, ça, l'irruption du doute ici, parce qu'on associe aujourd'hui Descartes,
quoi, ça
ne surprend plus.
Mais
pourquoi
se
met-il à douter ?
C'est très étrange. C'est très étrange. La méthode, c'est pour ne jamais se tromper. Et il prétend ne jamais se tromper dans les trois essais qui vont suivre. Puis là, d'un seul coup, il dit « je vais me mettre à douter de tout ». Alors, pourquoi ?
Ouais.
Parce que le sujet... connaît ce qu'il connaît et peut se convaincre par des raisons, disons, et emprunter des mathématiques, des modèles et des mesures, que ce qu'il connaît est sûr. Mais il y a l'expérience de l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes soudainement désapproprié de votre corps. Vous êtes un malade. On vous met tout nu devant dans un espèce de ridicule pyjama qui ferme par derrière. Vous êtes soumis à des examens. Si vous sentez quelque chose, si vous avez mal, on vous dit de vous taire. Si vous criez, on vous met un anesthésiste. Vous n'avez plus de corps. Ou du moins, il n'est plus à vous. Les médecins s'en sont emparés. Il devient des résultats d'examen et des photographies sur les écrans. Donc vous n'avez plus de corps. Et à ce moment-là, vous découvrez une chose que quiconque va à l'hôpital découvre, c'est que vous êtes toujours là. Mais vous n'êtes pas celui que les médecins étudient. Ils ont pris votre corps, vous n'êtes pas votre corps, et vous êtes quand même là. Vous avez vos pensées à eux, vous pensez que les médecins sont des brutes, des salauds, des...
Etc. Enfin, pas tous, Jean-Luc Marion.
Oui, pas tous. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir des pensées diverses, mais enfin... Vous êtes plus dans votre corps et vos médecins sont pas dans votre tête. Alors, il y a cette expérience-là que Descartes fait dans le rêve et il fait aussi dans l'expérience de l'erreur. C'est-à-dire quand vous faites une erreur, quand vous vous trompez, Vous trompez toujours en étant persuadé que vous avez raison. C'est-à-dire que ça vous échappe complètement. Donc, Descartes, qui pratique le travail de l'intelligence, artificielle ou non, c'est-à-dire dans le sens artificiel, sait que nous ne sommes pas ce que nous savons. Que ce que nous savons, même certainement, ça n'est pas nous.
Ce que nous savons, c'est la connaissance,
oui,
vous voulez dire?
Ce que nous connaissons.
Mais notre corps, nous ne le connaissons pas, nous pensons l'avoir.
Nous pensons dans la vie courante. Rien n'est plus proche que notre corps. Notre corps, c'est ce qui nous dit ce dont nous avons besoin, que gouverne nos exigences, nos mouvements, etc. Or, ce qu'on peut découvrir, c'est que ni mon corps, ni ce que je connais du monde, n'est moi. Alors Descartes le découvre dans le sens de la maladie, il en parle de temps en temps, dans l'expérience du rêve et dans l'expérience de l'erreur. Pourquoi un mathématicien peut-il faire des erreurs? Puisqu'il ne voit que des évidences. Et alors, c'est cette découverte de ce qu'il y a en deçà ou au-delà de ce que c'est le sujet supposé savoir, comme dira l'autre. Descartes découvre que le sujet est différent de ce qu'il sait. On appelle ça le doute. Il l'appelle comme ça le doute, parce qu'il reprend la rhétorique de l'époque où le scepticisme a un grand renouveau en même temps que le stoïcisme. Bon, très bien.
Mais il veut s'en distinguer du scepticisme d'ailleurs. À chaque fois, il le dit.
Oui, oui, bien sûr. Il n'est pas un sceptique. Mais il reprend cette rhétorique très courante. Alors, il fait cette découverte. Qui suis-je en deçà ou au-delà, méta, de ce que je sais?
Mais pardonnez-moi, avant d'aller plus loin, Jean-Luc Marion, pourquoi se pose-t-il même la question? Il dit qu'il veut chercher la vérité et au moment de s'engager dans la recherche de la vérité, il commence à douter pour prouver son existence. Pourquoi a-t-il besoin d'avoir recours à lui pour chercher la vérité?
Non, justement, ce n'est pas pour prouver son existence. Il se pose une question que se posait Montaigne, que se posait tout le siècle. Est-ce que la vie n'est pas un rêve? C'est-à-dire, est-ce que le monde tel que nous le connaissons correspond à une essence, une substance, une ousia? Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, c'est le moment où l'ousia, la substance, le réel hors de nous, n'est plus une évidence. Pourquoi il est tout à fait naïf au XVIIe siècle de faire une théorie de la substance? C'est pourquoi Spinoza est un gros naïf. Non, c'est un gros naïf parce qu'il pense que le plus haut nom qu'il puisse donner à Dieu, c'est substance. Or, la critique de la substance, elle est faite dès avant Descartes. Avec Kant, la substance, c'est fini. En philosophie.
Bon, Descartes aussi emploie le terme de substance.
Oui,
hein.
Mais alors on peut, je suis très le cas.
La naïveté est peut-être partagée.
Non, mais je veux dire, Descartes, justement, sait bien que la substance n'est pas déterminante. Pour lui, il va être, à la fin, il déduira la substance de l'ego et pas l'inverse.
Donc, à la différence de Spinoza.
Oui, bien sûr.
Donc, hache de guerre entre Descartes et Spinoza n'est toujours pas enterrée.
Oh ben, non, mais il n'y a pas de hache de guerre. Il faudrait qu'il y ait deux combattants de même force. Non, mais alors, laissons tomber ceci. Donc, Descartes est en train de découvrir que le fait que nous connaissions quelque chose, même certainement, n'est pas une garantie absolue. Car ce que nous pouvons connaître peut être un rêve. Et ça, c'est une obsession du XVIIe siècle commençant. Et alors, il affronte ce problème, parce que c'est un grand philosophe, il n'a pas peur. Il affronte ce problème au lieu de se rabattre sur des théories réconfortantes. En un sens, Galilée, au même moment, qui est un génie, la question n'est pas là, est philosophiquement un peu naïf, parce qu'il s'imagine que s'il a une certitude mathématique dans son interprétation du monde, comme Kepler, comme Mersenne d'ailleurs, comme Newton plus tard, il a touché le sol absolu. Et Descartes a compris que ce que je comprends, étant à ma disposition, étant en quelque manière un produit élaboré par moi, ne peut pas me garantir absolument d'aucune vérité absolue. Il y a quelque chose qui est en deçà. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est ce qui est en deçà.
Est-ce que le monde existe en dehors de moi?
Mais le monde peut exister en dehors de moi, mais ce n'est pas une garantie. Parce que je ne sais pas si ce que moi je considère comme une existence, l'empirie, le monde, les affects, tout ça, est-ce que ceci est véritablement le dernier mot de la réalité? C'est ça la question qui angoisse Descartes. C'est ce qu'il expérimente sous le nom du doute. Et là, c'est très fort. Un grand philosophe, voyez-vous, il y a le petit philosophe. Le petit philosophe, c'est un gars qui donne une réponse, juste ou fausse, limitée ou pas, à une question que tout le monde connaît déjà. disons Schopenhauer, bon gars, intelligent, brillant, ça va, mais il donne une réponse à une question que tout le monde connaît. Vous savez, le grand philosophe, c'est celui qui donne une réponse totalement inattendue, paradoxale, à une question que tout le monde soupçonnait. Et puis vous avez le très grand philosophe, c'est celui qui trouve une réponse à une question que personne ne se posait. Et Descartes, il fait cette percée inouïe.
Enfin, que tout le monde se posait, mais que personne n'avait formulé.
Non, oui,
que cette personne n'avait formulé. Tout le monde la sent.
Et Descartes pose cette question, qui est la question de Tirso de Molina, de Rotrou, de Shakespeare, de Montaigne. Est-ce que, quand j'ai une évidence, ça n'est pas un rêve? Et qu'est-ce qu'il y a derrière mes pensées? Est-ce qu'il y a une réalité absolue, ou est-ce que c'est, comme dans l'illusion comique, le rêve du rêve, etc., etc.? Et c'est là que la question du cogito va apparaître. Parce que le cogito d'une réponse, quand Descartes découvre que même si ce que je pense est douteux, faux ou un rêve, même ordonné, même mathématique, si je puis dire, même si tout ceci, si le contenu est faux, l'acte de penser, lui, est requis pour que le faux lui-même soit pensé. Donc l'acte de penser est, en tant qu'acte, une réalité indépassable. Plus je me trompe, plus, radicalisant la chose, plus on me trompe, plus il faut que je sois. Donc, je suis en tant, non pas que je pense le vrai, mais que je suis le penseur en acte du faux. Mmh.
Mais ça veut dire que Descartes, lorsqu'il doute, il doute de manière méthodique. Il surjoue le doute pour arriver à la vérité. Il n'est pas lui-même intimement convaincu de ce propre doute. Il ne met pas vraiment en question l'existence de ce monde, sa propre existence.
Si, je pense.
Ah
je
voilà,
pense.
Mais ça c'est une vraie question.
Mais je pense. Vous savez, le premier texte que nous avons de Descartes, qui d'ailleurs pas directement de Descartes, mais de son biographe Bayet, qui sans doute avait accès à des documents qui ont été perdus, ce sont les rêves de Descartes, en 1619. Nous allons d'ailleurs fêter les 50 ans de ces rêves qui ont eu lieu en Bavière, à Neuburg am Donau.
Les 500 ans.
Les 500 ans.
Oui, il fallait 50 ans.
Oui, excusez-moi.
Je sais que Descartes est proche de votre cœur, mais enfin, il est mort il y a bien longtemps maintenant.
Et alors, on va célébrer les 10 et 11 de novembre prochain, près de Ulm, sur les lieux mêmes, cet événement. Et Descartes a des rêves, et durant ces rêves, que je ne vous raconte pas, il termine en disant qu'il fait l'interprétation de ses rêves sans être réveillé. Bon. C'est ça le doute, c'est que vous pouvez donner une interprétation parfaitement rationnelle, parce que ce qu'il dit dans ses rêves, c'est son projet de tout ce qu'il veut écrire en philosophie. Et il dit qu'il en fait l'interprétation sans se réveiller. C'est là que vous voyez le doute. Le doute, c'est l'expérience que, d'ailleurs, les gens qui écrivent des livres ou qui font, savent très bien que parfois ils rêvent de ce qu'ils vont dire dans leurs livres. Et dans leurs rêves, moi ça m'est arrivé souvent, à vous aussi je suppose, d'un seul coup on voit la phrase géniale qu'on va dire. Et normalement, on ne se réveille pas, on l'oublie, et le lendemain il n'y a plus rien. Et alors, quel est le moment où on est le plus lucide? Quand on est le lendemain matin, quand on essaie de retrouver la phrase géniale qu'on avait dans son rêve, ou du moment du rêve? Bon, ça c'est l'expérience de Descartes. Mmh. Et alors je crois qu'il est vraiment dans ces situations de ne pas pouvoir, mais c'est tellement commun à son époque, de ne pas pouvoir. Quand vous êtes persuadé que les mathématiques sont la vérité du monde, comme les mathématiques sont totalement abstraites, n'ont aucun rapport avec la matière, les mathématiques sont peut-être un rêve par rapport au monde. Ne jamais oublier, toute la génération qui va de Montaigne à Pascal est à l'intérieur de ce soupçon.
Mais c'est le terreau du complotisme. D'avoir aucun moyen de prouver que ce qui est existe vraiment et que peut-être la vérité est autre que telle qu'elle nous apparaît.
Oui, mais il y a une différence avec le complotiste, c'est qu'ils ne sont pas tous mathématiciens, les complotistes.
Non, mais dire que les mathématiques, justement, nous donnent une version de la réalité qui n'est peut-être, qui est peut-être un rêve, qui est peut-être fausse.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'était Aristote qui disait ça. Pour Aristote, les mathématiques sont totalement certaines, mais elles n'ont aucun rapport avec la physis. Donc, Descartes est là au milieu. Donc, il entre vraiment dans le doute. Et alors, la découverte qu'il fait, c'est que le contenu de la pensée peut être absolument mis entre parenthèses, sans que l'acte de pensée puisse être mis en cause.
Alors, on va développer ça À présent, avec cette formule « je pense, donc je suis », qu'est-ce que c'est? C'est un syllogisme, un sophisme, une autre méthode de raisonnement? Pour y répondre, voici un extrait qui vous rappellera peut-être vos années d'enseignement, Jean-Luc Marion.
Vous vous rappelez hier soir?
Ouais. Vous allez voir.
Vas-y.
Vas-y. Bologna. Bologna.
Tomasi.
Je dis que je veux une femme, c'est normal, non?
Non, pas vraiment.
Pourquoi vous avez jamais envie de femme, vous, monsieur Moroni?
Si, mais.
Mais bah alors, vous avez pas envie de le crier comme ça devant tout le monde, non?
Bon, allez, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez.
L'homme descend du singe. Tomasi est un homme, Tomasi ne descend pas du panneau de basket.
Je vous félicite. Cet excellent sophisme vous vaudra un avertissement. Et si vous êtes aussi bon en mathématiques qu'en philosophie, vous devez savoir que c'est le dernier avant le blâme.
Combien de blâmes pour un renvoi?
Ça suffit, descendez tout de suite. Vous passerez dans mon bureau. Vous connaissez le chemin. Reprenez votre cours de gymnastique.
Alors, c'est pas un sophisme, c'est un syllogisme. L'homme descend du singe, Tomasi est un homme, Tomasi ne descend pas du panier de basket. Si on l'applique, cet extrait du Péril jeune, Jean-Luc Marion de Cédric Lapiche, où je pense donc je suis, est-ce que c'est une forme de syllogisme? Est-ce que ce qui est présupposé, c'est que ce qui pense existe, ce qui pense est, je pense, donc je suis?
Alors ça, c'est une des interprétations qui a été donnée tout de suite par les moins affûtés des lecteurs. C'est un syllogisme, et donc il présuppose cette thèse, ce qui pense est. Descartes dit non, il dit l'inverse, c'est-à-dire que nous découvrons l'éventuelle vérité de la proposition, tout ce qui pense est, sur l'exemple initial et fondateur de « je pense, donc je suis ». Alors, est-ce que c'est un intuitus, une intuition immédiate? Non, en soi, parce que penser n'est pas une connaissance. Je pense n'est pas une connaissance, c'est un acte. Mmh. Alors, il y a eu de nombreuses discussions sur ça. Est-ce que c'est une réflexion sur la pensée? Kant, Heidegger et beaucoup d'autres ont dit ça, que c'était la pensée qui se réfléchissait elle-même. Descartes n'a jamais dit ça, malgré Guéroux.
Marcel Guéroux, qui est un lecteur de Descartes.
Un interprète de Descartes. Alors, la meilleure interprétation, ce qui a déclenché la chose, ça a été un philosophe analytique, Kiyoko Intika, qui a dit que c'était un performatif. Un performatif, c'est un énoncé qui, simplement en disant, fait ce qu'il dit.
Je vous déclare mari et femme.
Oui, oui. Si vous êtes qualifié comme officier d'état civil. Je vous baptise, je vous aime, etc. Et alors, il a dit, finalement, quand il dit « je pense », il pense. C'est-à-dire, je ne peux pas dire « je pense » sans penser. Donc, cet énoncé est un acte. Et en tant que c'est un acte, c'est indiscutablement réel. Alors, on peut compliquer la chose. Alors là, un détail sur l'ambiguïté du discours de la méthode. Descartes dit « je pense donc je suis ». Alors évidemment, comme il dit « donc », tout le monde pense à un raisonnement qui serait un syllogisme, la conclusion d'un syllogisme dont les prémices eussent été sous-entendues. Tout ce qui pense est « je pense donc je suis ». En fait, cette formulation, qui est la plus courante chez Descartes, souffre une exception. Le texte le plus important. C'est-à-dire la deuxième des méditations de philosophie première. Le texte où c'est le plus développé, le plus explicité, etc., n'emploie justement pas cette formule. Descartes dit, c'est étrange, cette énonciation, prononciatum, cette utterance en philosophie analytique, cette profération, je suis, j'existe, est nécessairement vrai chaque fois que je la pense ou que je la dis.
Donc, je suis, j'existe, c'est la formule qu'on trouve dans les méditations métaphysiques.
Absolument.
Alors, le discours de la méthode, c'est je pense, donc je suis.
Alors, vous voyez, la différence, c'est que dans les méditations métaphysiques, il n'y a pas donc.
C'est vrai.
Et il n'y a pas je pense. Alors, qui n'est pas donc ne me gêne pas, puisque je suis sur l'hypothèse où c'est un performatif, il n'y a pas besoin d'un raisonnement dialectique. Je pense. Bien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas je pense dans cette formulation? Et là, c'est génial. C'est l'approfondissement génial. Car si penser, c'est un acte qui, justement, va conduire à l'existence de cet acte parce que il est indépendant de son contenu, il est avant son contenu, à ce moment-là, je ne dois pas inclure l'énoncé « je pense » dans ce que je pense. Si je dis « je pense », en fait, la pensée est dédoublée. Il y a l'acte de penser, et puis « je pense que je pense, donc je suis ». Mais on voit bien que le « je pense » qui est dans l'énoncé est de trop. Parce que il pourrait dire « je me promène », pour prendre un exemple, « je danse ».
Le présupposé, c'est que parler, c'est penser.
Bah, bien entendu.
Bah oui, mais regardez, si j'enregistre sur mon téléphone « je pense, donc je suis », que j'appuie sur « play », le téléphone va vous dire « je pense, donc je suis », pourtant c'est le téléphone, il ne pense pas beaucoup. Mais parler n'est pas forcément penser.
Oui, mais le téléphone, en fait, ne parle pas et ne pense pas.
Mais on entendra cette phrase. Oui, c'est les limites d'une interprétation purement langagière ou performative de cet énoncé.
Oui, mais enfin, je veux dire, c'est le fait que le téléphone dise d'une voix enregistrée « je pense » ne prouve pas qu'il pense. Ça prouve qu'il a été programmé par des gens qui pensaient à
sa place. Alors que moi, lorsque je dis « je pense », ça prouve que je pense.
Oui, ça prouve que je pense. C'est-à-dire que, dans mon cas, penser est un acte. Dans le cas du téléphone, penser est l'acte du programmateur, pas du téléphone.
Mais on pourrait pousser le doute encore plus loin et dire le fait d'affirmer que je pense ne prouve en rien que je sois en train de penser.
Mais ça prouve que c'est un acte.
C'est un acte, pas forcément de penser. Ça peut être de langage.
Non, mais oui, bien sûr, c'est un acte. C'est ça la question. L'acte qu'on ne peut pas séparer de moi, c'est l'acte de penser. Alors c'est peut-être une pensée fausse, c'est peut-être une pensée illusoire, c'est peut-être n'importe quoi que vous voulez, mais enfin, c'est une pensée, c'est un acte. Donc, Descartes, dans les méditations, ne met pas pensée dans le contenu de ce qu'il pense, parce que penser reste un acte, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire, c'est un acte au point que penser est un acte qui n'est donc pas dans l'énoncé. Et c'est pourquoi la formulation du discours de la méthode n'est pas la bonne. Au point que, il y a un philosophe canadien, Richard Mitten, si je n'ai pas oublié son nom, qui par ailleurs n'est pas un génie universellement connu, qui a eu cette hypothèse parfaitement juste, que si Descartes avait dit « je ne suis pas », la conclusion aurait été « j'existe ».
Oui.
Oui, parce que le contenu est indifférent. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire un acte ici? Puisque c'est un acte de pensée, qui peut être une illusion lui-même.
Oui.
C'est un acte au sens d'Aristote. Aristote dit que l'un des plus hauts achèvements de l'être, c'est le passage de la dynamis, la potentialité, à l'énergeia, c'est-à-dire l'accomplissement. Et Descartes dit, la seule énergeia qui me permettent d'accomplir mon ousia, ma substance, mon essence, comme vous voulez, c'est justement le fait que je pense. Et donc, alors le mot acte n'est pas prononcé par Descartes. Il n'est pas prononcé par Descartes pour des raisons, à mon avis, tout à fait explicables, parce que c'est un terme scolastique. Potentia, actus, ça sert partout, Descartes est tout à fait contre, il pense que c'est de la blague, que ça n'a aucun sens, etc. Mais en fait, c'est une théorie d'un acte. Chez Descartes, il ne reste plus qu'un seul, une seule énergia, un seul actus, c'est penser.
Mais ça veut dire que ce sont deux synonymes, penser et exister.
Ben, dans le cas de Descartes, oui. C'est très étrange, parce que l'existence est un terme tardif dans l'histoire de la philosophie, mais qui commence à s'imposer, disons, à partir du XIVe siècle, et qui se développe de plus en plus. Donc, toutes les choses existent. Tout ce qui est vraiment, en dehors de la pensée, existe. Donc, on parle de l'essai existentiel, de l'être sur le mode de l'existence, par opposition à l'être de l'essence, qui est purement représenté, c'est la pensée. Alors, Descartes, lui, va employer existence finalement d'une manière assez restreinte. Tout existe naturellement, mais ce qui existe au sens fort, c'est l'ego et Dieu. Le reste existe sous condition. Soit la condition d'être pensé, clairement et distinctement, dans ce cas-là il existe, soit parce que Dieu le crée et le maintient dans l'être. Mais l'existence va se spécialiser, va se réduire à ces deux interlocuteurs.
Alors, qui est ce « je » que prononce Descartes et pourquoi dit-il à la suite du texte que nous avons entendu, enfin, on l'a entendu, cette partie-là, que ce « je », examinant avec attention ce que j'étais et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, je connus de là que j'étais une substance Et juste après, il dit « en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distinct du corps. Pourquoi le jeu est-il une substance et pourquoi cette substance est-elle l'âme ?» Ça fait beaucoup d'informations sur un jeu qui jusque-là n'était que le synonyme de l'expression d'une pensée. Jean-Luc Marion.
Bonne question. N'imaginez pas que je vais y répondre. Ah
mais vous avez quelques minutes quand même.
Bon. Alors, première remarque, très juste de votre part, Descartes dit dans le discours de la méthode que le jeu de « je pense donc je suis » est une substance. Alors, d'où, vous savez, le substantialisme de Descartes, qu'on lui a reproché, etc. Intéressant de savoir que dans les méditations, quand il parle du jeu dans les deux premières méditations, il ne dit jamais qu'il est une substance. Substance n'apparaît que dans la troisième méditation, quand il parle de Dieu, pas de l'ego. C'est-à-dire que le père Descartes, il n'était pas... À la fin, il a très bien compris que c'est tout à fait douteux de dire que le jeu est une substance. Dans Ego sum ego existo, mais déjà dans le discours de la méthode, je suis un ego aussi longtemps et à chaque fois que je fais l'acte de penser.
Ego, ça veut dire je suis.
Oui. Aussi longtemps et à chaque fois que je fais l'acte de penser. C'est-à-dire que si je m'arrêtais de penser, en un sens, je ne sais plus. Donc je ne suis pas doté de la qualité de la substance, qui est une traduction latine, une des deux traductions latines avec essence, de l'ousia des Grecs, qui est justement de durer, d'être dans la présence permanente, la parousia. Parce que l'ousia, c'est une parousia. Justement, l'ego, il ne dure pas, c'est un acte. Mm-hmm. Et ça, il le dit très bien dans le...
Donc c'est pas une substance.
Ben, ça va devenir une substance à la fin de Descartes. C'est pas le meilleur moment. C'est dans les principes que ça va devenir une substance. Il fait
voilà,
ça.
Voilà, il emploie quand même le terme. Donc, vous dites, c'est une erreur de jeunesse.
Absolument. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Il y a entre deux chaises, je disais, dans le discours de la méthode. Et là, il y va un peu vite pour que les gens comprennent, qu'ils soient d'accord, etc. Mais dans les méditations, il va être beaucoup plus prudent. Donc, au fond, l'ego est plus qu'une substance. Parce qu'il est avant la substance, en quelque manière. Il est, même s'il n'est pas une substance, il est moins qu'une substance parce qu'il n'est pas permanent. Bon, là, il y a de longs développements à faire chez Descartes. Bon, la deuxième chose, la deuxième question que vous me posiez, c'est qui est alors cet ego si on ne peut pas simplement dire c'est une substance ?
Puis il y en a une, alors, dans ce cas, il y en a une troisième qui est la question de l'âme.
Oui,
mais ça, peut-être qu'on y viendra après. Oui, qui est cet ego, ce jeu ?
Les deux dernières questions se rejoignent, c'est-à-dire que âme... C'est un des mots que Descartes utilise. Il dira plus tard dans les méditations, est-ce que je suis un animal rationnel ? Il répond, je ne sais pas, dans la période de doute où je suis, bien que j'existe, je ne sais pas ce que âme, animal et rationnel veulent dire. Donc je ne dirai pas ça. Après, il dit, est-ce que je suis un entendement, un esprit mince ou une âme ? Il dit, ces mots n'ont pas de sens précis pour moi, donc je ne me définis pas ainsi. C'est-à-dire que l'ego... Et en deçà, ou au-delà, métaphysique, de ces déterminations supposées déjà connues. Descartes pense que il peut-être comprendre tous ces mots par analogie avec ego, mais on ne sait pas ce que ego veut dire. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les meilleurs philosophes après lui, les philosophes moyens, vont tous dire que ego, ça veut dire mens. Ou intellectus.
Esprit,
on traduit. Esprit, oui, on va pas traduire esprit, entendement. Donc ce sera Malebranche, ce sera Leibniz. Quoique Leibniz, c'est plus complexe, il est plus subtil que ça. Ou Spinoza. Ça leur semble aller de soi qu'on puisse dire que je pense veut dire que je suis un esprit. Bon. Descartes. En fait, celui qui comprendra le problème, c'est Kant. Parce que Kant, il n'avait pas lu Descartes, mais il avait compris Descartes. Au contraire de beaucoup de critiques qui ont lu Descartes et qui n'ont pas compris. Lui, Kant n'avait pas lu, mais il avait compris. Les grands philosophes se comprennent. Alors, Kant, lui, voit tout de suite l'ambiguïté de l'ego. Il y a d'une part l'ego empirique, donc qui pense ce qu'il pense, qui rêve, etc., dont on ne peut pas dire grand-chose. Et puis, au moment où cet ego découvre qu'il existe en tant qu'il pense même n'importe quoi, à ce moment-là, il prend un autre rôle, ce que Kant appelle l'ego transcendantal, ce qui veut dire à la fois un ego abstrait, un ego universel que tout le monde peut devenir, et un ego qui est au-delà de toute substance, qui n'a pas besoin d'une substance pour opérer.
Oui, c'est ça. La question, c'est est-ce qu'il reste quelque chose du moi quand je ne dis pas je ?
Rien. Ou alors, c'est les contenus empiriques et psychologiques de mon moi qui ne sont pas moi. Comme la littérature nous a appris.
Donc pour être soi, pour savoir où est le moi, il faut dire je, il faut écrire en fait. Il faut écrire sa pensée, il faut formuler sa pensée.
Non, il faut formuler sa pensée, parce que quelquefois on écrit sans penser. Ça s'est déjà vu. Il faut dire je, un je qui est en acte. Alors il y a des cas, il y a l'acte de penser, mais je dirais qu'il y a aussi, quand on dit je t'aime, on est un je. Quand on dit je pense en première personne, on est un je. C'est-à-dire que Descartes dit, ça n'est que quand je suis vraiment en première personne que je suis. Ça c'est très fort, c'est-à-dire... C'est l'inverse de l'intelligence artificielle. Il suffit pas de penser quelque chose de rationnel. Il suffit pas de se représenter pour être. Parce que si on se représente, ce que n'importe qui peut se représenter.
C'est ce que Kant démontre très bien.
Et même personne. Hein, si on est simplement celui qui appuie sur le bouton pour déclencher de la pensée qui est déjà là, ça n'est pas je. On est je quand le pronom est vraiment personnel. Si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire quand je suis tout entier dans l'acte de dire je. C'est-à-dire quand je pense, quand je décide, quand j'aime, quand je crois, quand je m'engage.
Mais c'est le travail d'une vie.
Mais oui. Et c'est là que...
Ou d'une analyse, d'ailleurs.
Oui, bien entendu. Et c'est là que Descartes sort de la représentation. Oui, c'est ça. Et donc l'ego n'est pas du tout la représentation de ma pensée, la réflexion sur mon moi, etc. Quand je réfléchis sur mon moi, c'est un moi transcendantal approximatif qui réfléchit sur un moi empirique complètement flou. Donc il n'y a pas de jeu. C'est cette percée du jeu qui est extrêmement forte, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a dit à propos de Descartes, le subjectivisme, l'individualisme, pas du tout.
Donc c'est quoi? C'est presque la singularité, alors?
C'est absolument la singularité, c'est l'ipséité, c'est le risque. Vous savez, en ce moment, je travaille sur l'hébreu et l'Ancien Testament, et alors, c'est étrange de voir que Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le Christ dira la même chose, c'est le seul qui a le culot de dire « je ». Il dit, on se contredit par « je suis ». En fait, il dit « je ». Et pour dire « je », c'est pas du tout se prendre pour le maître du monde. C'est prendre un risque énorme. C'est-à-dire se mettre entièrement dans ce qu'on dit. Et alors, Descartes est celui qui n'est pas... Il n'a pas inventé la subjectivité. Il y avait la subjectivité avant Descartes. Il a inventé l'idée que quand on dit « je », on s'y met tout entier.
Et ça, c'est différent de Montaigne, par exemple?
Ah, très bonne question. Alors là, Là, on pourra faire une émission ensemble.
Il nous reste une minute, mais je suis curieuse de savoir...
Montaigne, c'est prodigieusement intéressant. Parce que Montaigne, c'est le milieu entre Saint-Augustin et Descartes. Et alors Montaigne, c'est celui qui a tout ce qu'il faut pour dire l'ego cogito, mais qui pense que s'engager en tant que je dans l'ego n'est pas possible. Donc il a tout ce qu'il faut pour faire l'ego. C'est pour ça que j'avais défini Montaigne, c'est celui qui se demande pourquoi est-ce que je ne dis pas je. Et Montaigne dit moi. Mais il y a un dialogue absolument fondamental entre Montaigne et Descartes. Vous avez Montaigne, Descartes, Pascal.
Et toute l'histoire de la philosophie se tient là.
Là, on est, comme on dit vulgairement, dans le dur.
Et ben justement, le dur, bon, il reste une minute, donc on n'aura pas du tout le temps de l'aborder. Et pourtant, la fin de la quatrième partie, enfin la suite, Descartes prouve l'existence de Dieu. À trois reprises, en reprenant des arguments qui sont un peu similaires, pourquoi une fois qu'il a fait cette démonstration, si on peut appeler ça comme ça, du « je pense donc je suis », a-t-il besoin ensuite d'invoquer Dieu, enfin de se référer à Dieu, n'est-ce pas? Un aveu de faiblesse de sa part, « je pense donc je suis » ne se suffit pas, puisqu'il faut encore la garantie divine.
Non, d'abord, le terme « garantie » n'est jamais employé par Descartes.
Alors, c'est moi qui l'emploie.
Oui, mais je veux dire, tous les critiques parlent de la garantie. Descartes, on n'emploie jamais. Alors que les commentateurs cessent de nous bassiner avec la question de la garantie divine. Non, l'ego, le problème de l'ego, c'est qu'il n'est qu'aussi longtemps et qu'à chaque fois qu'il pense. Donc le temps lui échappe, la permanence lui échappe. Et donc la question de Dieu naît de la permanence. Parce que être vraiment, absolument, ce serait être permanent. Et lui, l'ego ne l'est pas. Et là, Descartes le voit tout de suite. Il voit tout de suite qu'il est certainement... Mais il n'est pas de manière permanente. Et on ne peut pas dire que c'est une invention, parce que le fait que j'éprouve que je suis fini m'ouvre sur l'infini. Donc la question de Dieu apparaît parce que je suis certainement, mais pas de manière permanente.
Bon, vous reviendrez nous parler de la suite.
Volontiers.
De la quatrième partie. Merci Jean-Luc Marion. On a commencé avec Brigitte Bardot, on se quitte avec Joe Dassin. Vive moi.
On pourrait croire que l'été revient, tellement il fait beau sur la ville. Et s'il y a une chose qui me fait envie, c'est bien l'envie de ne rien faire. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. À la radio, y a quelqu'un qui parle. J'y vais sûrement pas contredire. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. L'impression qu'aujourd'hui les filles sont bien plus jolies que d'habitude. Et pour allumer tous ces yeux qui brillent, j'ai même pas besoin de leur sourire. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. Des jours comme ça, ça ne court pas les rues. Faut bien sauter dessus quand il passe. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. Aujourd'hui, vive-moi.
Un grand merci Jean-Luc Marion d'être venu nous donner envie de lire cette quatrième partie du discours de la méthode aujourd'hui. De vous, on peut lire, je l'ai dit, une longue liste d'ouvrages sur Descartes. On les mettra sur le site des chemins de la philosophie. Et puis vous êtes en train de travailler, vous me disiez, sur le concept de la révélation. Pas forcément chez Descartes.
Non, théologiquement.
Bon, eh bien on a hâte de vous lire. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie pendant que Jean-Luc Marion se roule une pipe.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable, bourre une pipe.
On bourre une pipe, on ne roule pas une pipe. Géraldine, bonjour.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous revenez aujourd'hui sur une nouvelle tête de liste aux élections européennes.
Et oui, ça ne vous a sûrement pas échappé, tant l'information a été diffusée et commentée. C'est un philosophe qui sera tête de liste aux élections européennes pour le parti Les Républicains. Normalien, agrégé, créateur des soirées de la philo à Paris, auteur d'essais, notamment Les Déshérités et Demeures, ce n'est pas la première fois qu'un philosophe se frotte, et même plus à la politique, l'occasion pour nous de revenir sur ce mariage des genres, grâce à ce philosophe qui est...
Il s'appelle Bellamy, ça n'est pas le héros de Maupassant, non, le Bellamy qui nous intéresse aujourd'hui sera tête de liste LR aux élections européennes, flanqué d'Agnès Evren et d'Arnaud Danjean, trio proposé cet après-midi à la commission d'investiture des Républicains. Malgré le débat pas du tout feutré sur le profil de François-Xavier Bellamy, philosophe versaillais, conservateur anti-avortement, c'est le choix de Laurent Wauquiez, un choix d'avenir pour la droite, selon le politologue Jérôme Fourquet.
C'est aussi un enseignant, c'est aussi un intellectuel, un philosophe qui travaille sur le plan des idées. Et donc ça correspond à la volonté de réarmer idéologiquement ou de redéfinir intellectuellement les fondamentaux de la droite.
Un philosophe au pouvoir, le cas de François-Xavier Bellamy a frappé les esprits mais n'est pas une nouveauté. On pourrait même dire que philosophie et politique sont aussi vieilles l'une que l'autre. Art de gouverner, fondement des régimes politiques, accord des lois et des mœurs, définition du commun et du collectif, etc. Les problématiques ne manquent pas dans le domaine de la philosophie politique et les penseurs non plus, de Platon à Aristote jusqu'à Arendt, en passant évidemment par Rousseau, Hobbes ou Kant. Mais parmi ceux-là, certains ont pourtant fait plus que s'y intéresser. Ils ont été des acteurs de la vie public. Quand on se penche sur la liste des philosophes, il est d'ailleurs étonnant de voir que peu se sont contentés d'être philosophes. Ils ont aussi été économistes, juristes et plus récemment psychanalystes, comme par exemple Hayek, Grotius ou Guattari. Alors, pourquoi pas philosophes et hommes politiques ? Parlementaires, maires, militants ou conseillers, qui sont ces philosophes au pouvoir ? Que trouvent les hommes politiques dans la philosophie ? Une méthode, des valeurs, un art rhétorique ou alors des principes ? Et que peuvent bien trouver de leur côté les philosophes à la chose publique, la mise à l'épreuve de leur théorie ou une manière de faire régner leurs idées ?
Le premier trait caractéristique de tous les systèmes qui portent le nom de socialisme est un appel immodéré aux passions matérielles de l'homme. Les uns ont dit qu'il s'agissait de réhabiliter la chair, les autres ont dit qu'il fallait que le travail, même le plus dur, ne fût pas seulement utile, mais agréable. Enfin, d'autres ont dit que le but du système socialiste et le but de la révolution de février avaient été de procurer à tout le monde une consommation illimitée. J'ai donc raison de dire, messieurs, que le trait caractéristique et général de toutes les écoles socialistes est un appel énergique et continu aux passions matérielles de l'homme.
Comme on l'entend, c'est un discours d'Alexis de Tocqueville, et Alexis de Tocqueville incarne cette figure du philosophe homme politique, ministre des Affaires étrangères, député de la Manche, penseur hors pair des mœurs politiques en temps démocratique et orateur de génie. Mais comment savoir précisément comment les concepts se sont mêlés à sa manière de gouverner et inversement ? Eh bien, pour y voir plus clair, le mieux semble d'établir une petite typologie de ces philosophes gouverneurs. J'en vois trois pour ma part. Il y a d'abord les philosophes qui sont devenus par la suite des hommes politiques, bien que l'influence de la philosophie soit sûrement incontestable dans leur gestion du pouvoir, être professeur de philosophie a laissé la place à la fonction politique. C'est par exemple le cas de Luc Ferry, d'abord spécialiste de Kant, puis ministre de l'Éducation, ou de Vincent Peillon, qui a d'abord travaillé sur Merleau-Ponty avant d'entrer en politique. Il y a ensuite les engagés, formés à la philosophie, qui ont produit des essais pour justifier leur idéologie. On peut ici citer les penseurs antirévolutionnaires Edmund Burke ou Joseph de Maistre, ou alors à l'inverse, Bertrand Russell, qui a fait de sa philosophie logique un terreau pour le socialisme et la paix. Et puis, il y a enfin les philosophes qui n'ont cessé de l'être, ou sont même devenus plus philosophes au contact de la politique, se servant moins de la philosophie en vue d'une conception politique que comme lieu de réflexion et fruit d'une action. Tocqueville, donc, mais aussi Montaigne, nommé maire de Bordeaux par le roi, il faut le noter, contre sa volonté.
Vous allez entendre les Chroniques de Paris, consacrées à Machiavel dans la série Prince de tous les temps.
Un prince ne peut vivre en sécurité sur son trône tant que vivent encore ceux qu'il en a dépouillés. Il faut bien prendre garde de ne point user mal à propos de la clémence. En faisant un petit nombre d'exemples de rigueur, vous serez plus clément que ceux qui, par trop de pitié, laissent s'élever des désordres, d'où s'ensuivent les meurtres et les rapines. Car ces désordres blessent la société tout entière, au lieu que les rigueurs ordonnées par le prince ne tombent que sur des particuliers. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. On appréhende beaucoup moins d'offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre.
À cette typologie, j'ajoute l'incontournable Machiavel, le philosophe de l'ombre. À la différence du philosophe roi de Platon ou du philosophe gouverneur, c'est le conseiller dont les idées règnent mais avancent masquées. Si François-Xavier Bellamy a été choisi pour apporter des principes et des valeurs à la droite, à voir s'il restera à l'écart ou quel philosophe gouverneur il incarnera.
Jean-Luc Marion, vous avez été tenté par la politique ?
Jamais.
Au moins, c'est clair.
Jamais, et pour une raison de fond, c'est que je pense que les politiques, avec quelques exceptions, et il y en a très peu, ne savent pas ce qu'ils font.
Bon, à méditer. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jean-Frédéric à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes cartésiens. Notre série sur le discours de la méthode de René Descartes continue. Demain, nous serons en compagnie du philosophe David Rabouin. On se demandera si on peut chercher la vérité dans les sciences, entre autres questions majeures soulevées par Descartes. D'ici là, pour réécouter cette émission sur le « Je pense donc je suis » de Descartes, commenté par Jean-Luc Marion, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez écouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, l'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. Nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.